RMC, les grandes gueules.
Avant de revenir sur à quel point la Macronie est en dérive mafieuse, et je pèse mes mots, sur la manière dont on essaye de nous empêcher de discuter une loi avec un loto autoritaire, 49.3, 47.1, 44.2, 44.3, et maintenant article 40 que vous sortez du chapeau. Vous êtes des dangers pour la démocratie aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer. Nous n'allons pas continuer à discuter des amendements comme si rien ne s'était passé. Nous n'allons pas continuer à examiner à un les choses sans en fermant les yeux sur l'acte d'autoritarisme incroyable que vous avez fait. Et je vais vous dire, Madame la Présidente, vous abaissez l'Assemblée nationale.
Ah, dérive mafieuse, danger pour la démocratie, autoritarisme, abaissement de l'Assemblée nationale. C'était mal la députée Mathilde Panot
hier.
Alors,
de quoi en
fait
que s'est-il passé en fait? Les députés étaient donc réunis lors de cette commission des affaires sociales et ils ont donc majoritairement, il y a une majorité Renaissance et une partie des LR, voté contre l'article 1 de la proposition de loi du groupe Liot, désormais célèbre, qui vise donc à abroger le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Ça veut dire que c'est un peu la fin de l'histoire de cette proposition de loi Liot. De toute façon, depuis le début, on sait que ça n'ira pas très très loin. C'est une façon aussi de prolonger le combat. Mathilde Panot, alors les Insoumis, forcément, ils ont perdu hier, donc ils l'ont mauvaise. Ils parlent de dérive mafieuse, de l'auto-parlementaire, de déni de démocratie, etc. Alors, ça veut dire quand même que la semaine prochaine, on aura quand même une nouvelle journée d'action. Ça sera mardi prochain à l'appel de l'intersyndicale. En fait, on va manifester contre un texte qui a été voté, qui a été promulgué et qui va entrer en vigueur en septembre. Alors la question, est-ce qu'il faut, il est pas temps d'arrêter de siffler à la fin de la partie et reconnaître du côté de l'opposition et peut-être des syndicats que c'est une défaite et que ce texte, même si on le trouve insupportable, il va passer.
32-16 pour en parler avec les GG. Étienne.
Alors moi, je dois dire que j'ai. On atteint les limites du. C'est très compliqué cette histoire. Moi, je sais même pas que le texte il pouvait revenir. J'avais pas compris ça et j'ai vraiment été chercher parce que alors, c'est la législation. C'est compliqué. Là, c'est très technique. Hein, c'est très technique parce que en plus bloquer cet amendement numéro 1. Donc évidemment, c'est celui-là qui compte puisque c'est l'amendement qui est du passage de 62 ans à 64 ans. Donc ça vide le texte de toute sa substance. Moi, je trouve tout à fait légitime, j'aurais bien été incapable de le faire, mais je trouve tout à fait légitime qu'on aille jusqu'au bout du combat, puisqu'il y a une majorité de Français, a priori, qui continue d'être contre ce texte, que les députés, un certain nombre, se sentent investis du rôle de représentation du peuple. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils aillent au bout des possibilités de lutte contre ce texte. Ça fait partie, visiblement, c'est constitutionnel, ça fait partie de ce à quoi on a le droit en
mais
tant que député.
Pourquoi être parlé de dérive mafieuse?
Et quand on perd, on peut continuer de se battre parce qu'on
n'est pas obligé de dire que c'est une dérive mafieuse.
Mais ensuite, dans le combat, il y a effectivement depuis toujours des mots qui sont lâchés parce que effectivement, ils sont les mots de la colère, ils sont les mots de et c'est tout à fait normal. Et moi, je vais te dire,
c'est pas ridicule.
Le résultat, ce qui est ridicule, c'est que beaucoup de Français ont quand même le sentiment. Un, que le débat a été tronqué d'une façon générale et qu'on n'a pas pu débattre réellement. Et deux, que quand le gouvernement veut vraiment quelque chose, il l'obtient par le système de la Ve République. Il l'obtient même quand tout le monde est contre et que finalement on a un sentiment d'avoir été floué. Même si tout cela est légal, même si tout cela est écrit dans la Constitution, le sentiment qui restera de ça et qui restera, mais oui, et le sentiment qui restera de ça, c'est que finalement nous nous sommes fait baiser largement. Parce que la Constitution le permet. Voilà, c'est ça qui restera. Et donc c'est presque une preuve qu'on doit passer dans quelque chose de différent vis-à-vis de la démocratie. Est-ce que je peux terminer?
C'est presque la preuve
qu'on est arrivé au bout de la Ve République en ce qu'elle permet. Permet d'un pouvoir ultra présidentiel, dans laquelle finalement même les chambres ne sont pas comme aux États-Unis ou comme en Angleterre, qui sont aussi de grandes démocraties.
T'as oublié de parler de l'Allemagne.
C'est pas le même système.
Non, mais Étienne.
C'est pas le même système, et je pense qu'on est arrivé au bout.
C'est un peu contradictoire. Non? Parce que ces mêmes insoumis utilisent les outils de la 5e, les sous-amendements, pour faire de l'obscurcion parlementaire. Donc, en fait, tout le monde utilise les armes de la Constitution et de la 5e. Les deux. Donc, c'est le combat
c'est la preuve,
se fait à armes. Non, mais le combat se fait à armes égales, sauf qu'il y en a toujours un qui gagne à un moment. Et là, avec les mêmes armes.
Quand il y a une majorité, donc, c'est la majorité qui gagne, c'est le principe de la démocratie.
Bien sûr.
Bah, oui.
Et dans cette commission, on a vu ce qui s'est passé. On ne peut pas dire qu'il y a une magouille ou un truc mafieux. Ça, c'est ridicule de dire ce que dit Panot, c'est complètement con. Par contre, il y a eu un vote, et à deux voix près, c'est vrai, ça a rejeté le premier article de cette loi. Bon, ben, c'est tout. Autant on peut discuter sur le 49-3, autant là, dans cette commission, il y a eu un vote, majoritairement, qui a rejeté l'article. Bon, j'ai compris que Liotte voulait le représenter, effectivement, en plénière.
Non, oui.
Mais bon, mais après,
ça pas.
C'est pas moi qui vais critiquer le fait de continuer jusqu'au bout quand on a le sentiment d'avoir perdu quelque chose qui est injuste. Je sais de quoi je parle dans le domaine de la rivalité ou de la chasse. Il y a beaucoup de causes que qui sont menacées aujourd'hui. Et je comprends les gens qui veulent aller jusqu'au bout. On revient toujours à la même chose. Au début de ce qui s'est passé pour cette loi, une incompréhension des gens. Probablement un système qui a été proposé qui n'était pas clair. J'en veux toujours pour preuve. Je demande autour de moi encore à des gens aujourd'hui. Tu pars qu'en retraite. Tout le monde est paumé. On sait pas bien les choses. Donc, de toute façon, ça restera une plaie ouverte. Moi, je pense qu'il y aura des soubresauts encore longtemps de ce qui s'est passé. Même si je comprends, quand on a perdu, on doit arrêter. Mais c'est pas tout à fait perdu, puisqu'il reste encore des solutions. Et je comprends que les gens, démocratiquement, se battent pour une cause. Peut-être que je ferai pas la même chose à leur place, mais je trouve légitime qu'ils le font. Ça me choque pas outre mesure.
Bah moi, ça me choque. Ça je trouve que c'est un cirque, un acharnement inutile. À un moment, quand on fait quelque chose et qu'on sait qu'on a perdu et qu'on va jusqu'au bout en sachant que l'on va perdre, c'est presque ça, c'est ça bafouer la démocratie. C'est pas utiliser les outils démocratiques. Et là, Étienne, tu dis qu'on est arrivé à bout de souffle de la Ve République. Alors, dans ce cas-là, les Insoumis aussi utilisent les outils démocratiques prévus par la Constitution. Donc, tu as une indignation à géométrie variable.
Non, pas du tout. Bah, si. Je trouve, par exemple, que l'obstruction qui a été faite au début avec la présentation
de
temps.
Oui, mais là, on parle de ce qui se fait aujourd'hui.
Je trouve que c'est une connerie de la part des Insoumis.
Mais ce qu'elle dit là, c'est
d'ailleurs,
une connerie
c'est
aussi.
C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vote. Hein.
À oui, mon avis, c'est pour vrai. Ça. Bon.
Mais là, ce qu'elle fait aussi, c'est un acharnement inutile. C'est-à-dire qu'elle persiste pour faire quelque chose qu'elle sait vouer à l'échec.
Moi, je pense
et elle crie au scandale et ils partent quand ça ne va pas.
Et moi, je pense en plus qu'on ment aux Français qui sincèrement pensent qu'il y avait encore un coup à jouer.
Ça, c'est vrai.
Et notamment aux gens qui ont cru réellement que le match n'était pas fini alors qu'il est fini. Et ça, je trouve que ces responsables politiques jouent avec le feu parce que il y a des Français sincèrement qui sont contre cette réforme, à qui on fait croire que ce n'est pas terminé, qu'il faut une nouvelle journée d'action la semaine prochaine, qu'il y a de l'espoir.
Cet espoir,
on sait très bien qu'il n'existe pas, que le match est terminé, que la loi va être appliquée. Et ça, je trouve ça dangereux.
Et pourquoi tu dis que Liotte, c'est pas l'extrême gauche, à ma connaissance, hein, excuse-moi.
Oui, mais Charles de Courson, d'accord, je pense que c'est son dernier tour de piste.
Charles de Courson,
on se sert de tout
exister.
Ça pour faire de l'anti-LFI.
Mais non, c'est pas du tout.
Mais Charles de Courson, alors si tu veux que je parle de Charles de Courson, c'est quand même le même qui conseillait Valérie Pécresse.
Il voulait la retraite à 65 ans.
Il voulait la retraite à 65 ans, qui a passé toute sa vie à nous expliquer qu'on partait trop tôt au travail et qui tout d'un coup, touché par un.
Dernier coup d'éclat.
Moi, je pense qu'il est.
Là,
on est dans un truc psychanalytique.
Comme il sait qu'il est fini, il veut mettre le paquet pour exister.
C'est son dernier tour de piste. Il y a un côté.
On est ridicule.
Voilà. Sincèrement, je trouve ça assez ridicule, Charles de Courson.
On va aller dans les Hauts-de-Seine.
Vous êtes unanime, quoi, en gros. Hein.
Non.
Tu es là pour apporter la contradiction.
On n'est pas unanime là-dessus, Étienne.
Moi, je vais d'abord cracher sur LFI.
Non, mais pas du tout.
Non, on n'est pas tous d'accord contre toi, c'est pas vrai. Je pense que le jeu parlementaire qui se joue là, même s'il reste un tout petit espoir, ils ont raison de le jouer. C'est le jeu, c'est comme
ça. Moi, j'ai cru au référendum.
Je suis contre, et là, je comprends pas. C'est quand, d'abord, on insulte les gens, comme ça se fait maintenant beaucoup à l'Assemblée nationale, et quoi que tu dises, LFI est très violent dans ce domaine, et ça, c'est vrai. Et en plus, par contre, là où c'est dangereux, c'est dire aux gens, on va retourner dans la rue, parce qu'à un moment, on y va pourquoi? On va tout casser, hein. Ça va finir comme ça.
Oui.
Et là, c'est pas bon. Par contre, le jeu parlementaire, le jeu législatif, jeu juridique, pourquoi pas? C'est normal.
Willy, c'est normal.
Oui, mais.
C'est perdu d'avant.
Si, mais non. S'il y a un petit espoir pour ces gens, je peux le comprendre. Il est très faible, je suis d'accord avec toi.
La pression de la rue, ça existe aussi dans la
République. La pression, mais pas la violence.
On a vu en 68 que le gouvernement a reculé, remettre
les gens dans la rue, là, maintenant.
On a vu des gens reculer.
Ça va mal.
On a vu des États reculer.
Ça va mal finir.
Alors que tu sais pertinemment, au fond de toi, que ça ne l'est pas.
Nous sommes avec Aliou, qui est conseiller funéraire dans les Hauts-de-Seine, fidèle des GG. Bonjour Aliou.
Bonjour les GG, bonjour à tous.
Aliou, alors, est-ce que la partie est pliée maintenant et l'opposition doit accepter sa défaite?
La partie est pliée, je ne sais pas. L'opposition doit accepter sa défaite. Non. La Macronie découvre enfin ce qu'est une réelle opposition. Et moi, je salue, je suis totalement d'accord avec Mathilde Panot, avec ses propos. Je pense que même si éventuellement on flirte avec l'insulte, même si pour moi l'insulte, Willy Schrein disait que les insoumis ne cessent d'insulter au niveau du Parlement. Moi, la seule insulte que je vois, c'est l'insulte qui vient du gouvernement et de la Macronie, qui ne cesse d'insulter les Français, qui refuse d'entendre. Et aujourd'hui, la réelle question à se poser, c'est que la Macronie est en train de créer un précédent. Vous vous rendez compte que si demain, le RN, Marine Le Pen, arrive au pouvoir, aujourd'hui, la Macronie est en train de lui dresser un tapis rouge et pour en faire une jurisprudence mais incroyable. C'est qu'aujourd'hui, je gouverne contre tout, contre les avis de tout le monde et je m'en fous, et que je dégaine, comme le dit Mathilde Panot, à coup de l'auto 49.3, 47.1 et tout le tralala qui s'ensuit.
Ça s'appelle la Constitution. Ça s'appelle la Constitution. Mais c'est vrai que Mathilde Panot est contre la 5ème République.
C'est
dans le plan d'IAGU.
Mais pardon, excusez-moi, mais dans ce cas-là, il faudrait aussi le remettre en question. D'ailleurs, c'est à ça que sert des députés, un gouvernement, de se dire on est arrivé à bout, et surtout ne pas créer des précédents, parce que systématiquement, on dit oui, la France Insoumise, oui, le RN sont des partis qui ne sont pas républicains. On sait tous que
on n'a jamais dit ça.
Pardon ?
On n'a jamais dit ça.
Mais vous moi, je dis simplement.
Non,
c'est pas
moi,
vous
je.
Vous entendez.
Ah non, moi je dis simplement, c'est que les Insoumis. Non, mais les Insoumis sont contre la 5ème. C'est dans leur programme.
Ils le disent eux-mêmes.
Ils veulent une 6ème République.
Mélenchon le dit.
Enfin, c'est le programme de Mélenchon, pardon.
Non, mais moi je ne suis pas insoumis, mais là je me fais le porte-parole limite de la France Insoumise. Moi je pense qu'aujourd'hui ils incarnent la réelle opposition. La Macronie est en proie à l'incohérence et à la dérive autoritaire. Et son chef est Emmanuel Macron. On l'a vu d'ailleurs, je vais être un peu hors sujet avec Elisabeth Borne lorsqu'il la recadre. Il recadre quand même quelqu'un qui est la fille d'un déporté d'Auschwitz. Mais on est dans un monde de fous quand même. Et il n'y a aucun commentateur, il n'y a aucun journaliste pour dire on est dans un monde de fous, pourquoi il la recadre.
Moi je suis d'accord avec vous, mais attention parce que je pense très sincèrement qu'il est important qu'un État et qu'un gouvernement puissent voter des lois impopulaires. Parce que on pourrait très bien imaginer que des lois sont impopulaires, mais néanmoins nécessaires, notamment des lois morales. Il peut y avoir un peuple qui, par exemple, serait complètement engagé dans des événements très immoraux, parce que et que ce soit l'État qui dise non. Calmons-nous, on va donc l'État, il peut, on l'a vu par exemple pendant les périodes de guerre, de prendre une décision courageuse au niveau de l'État, même contre son propre peuple, évidemment, on aurait pu imaginer qu'on donne pas les pleins pouvoirs à Pétain. Donc excuse-moi, toi tu veux que je trouve qu'important qu'il y ait tout ça.
C'est parler de dérive mafieuse. Moi, bien sûr que les insoumis sont dans leur
ça,
rôle.
Chaud,
moi, je suis d'accord avec l'opposition.
Les termes sont
inappropriés. Je suis d'accord avec Aliou. Mais sincèrement,
ça fait 200 ans que les gens s'insultent à l'Assemblée nationale. C'est maintenant que vous pleurez.
On va continuer d'en discuter. Merci à Aliou d'avoir été avec nous. Aliou de Haute-Seine. On va aller dans le Val-de-Marne ensuite avec Loïc, qui est expert comptable. Est-ce que la France Insoumise est allée trop loin hier encore en disant dérive mafieuse, danger pour la démocratie, autoritarisme. Est-ce qu'elle doit finalement accepter l'opposition qu'elle a perdu la partie sur les retraites? À tout de suite.
RMC. 9h30. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
GG les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Sarah Salman, avec Willy Schran, avec Étienne Lébig. On revient, et avec vous, surtout au 32-16, comme Aliou il y a un instant. On revient sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale avec les mots durs employés par la NUPES et la France Insoumise, surtout à l'encontre du gouvernement lors de l'examen de la proposition de loi à Lyotte. Et ce matin, Aurore Berger, qui était l'invité d'Apolline de Malherbe sur RMC et BFM TV, a répondu à Mathilde Panot à ces termes de dérive mafieuse, danger pour la démocratie, autoritarisme. Voilà ce qu'elle disait, Madame Berger.
Ah ben on a peur de rien, j'allais dire. On n'a surtout pas peur de la démocratie et du vote. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé, c'est des scènes assez ahurissantes, forme d'intimidation, je parle même pas des hurlements, des cris, des tentatives d'obstruction qui étaient manifestes de la part de la France insoumise. Parce qu'en vérité, quand la démocratie parle, quand un vote a lieu, mais qu'il ne leur convient pas, alors ils considèrent qu'il n'y a pas de démocratie. C'est systématiquement ça avec les mélenchonistes. Quand la démocratie parle, mais ne va pas dans leur sens,
avec vous, y a pas de
ça
vote,
voudrait dire qu'il n'y a pas de démocratie. Ben nous, il y a eu un vote. Et la seule chose qu'on voulait hier, c'était pouvoir avoir un débat, espérer avoir un jour peut-être un débat serein sur la question des retraites à l'Assemblée nationale.
Loïc, bonjour.
Bonjour, Loïc. Bonjour les grandes gueules.
Loïc. Bonjour Loïc. Alors est-ce que l'opposition doit accepter sa défaite là aujourd'hui?
Légalement, par la loi, bien évidemment. Je rejoins complètement ce que vous disiez, monsieur Lébigue. Il y a un moment donné, il faut être conscient de défaite, c'est la démocratie, et d'échec sur une contestation d'une loi. Alors ça, c'est la partie, vous savez, c'est moi je suis dans l'expertise comptable, c'est comme la différence entre la comptabilité officielle et je dirais la gestion un peu parfois au quotidien. Donc il y a un peu la loi, légalement, oui, il faut, de mon point de vue pour le moment, accepter cette défaite-là, et puis il y aura le retour dans les urnes sur la prochaine présidentielle pour cela.
Exactement.
Maintenant, il y a un véritable souci, encore une fois, et on le voit bien avec, vous venez de rappeler les propos d'Aurore Berger, nous n'avons pas peur de la démocratie du vote. Il y a un moment donné, ça me fait penser à, encore une fois, le grand patron, hein, on croise des gens qui sont tout et qui sont rien. Et, là, ils ont un niveau de malveillance dans la gestion humaine qui fait qu'à un moment donné, ils ont aggravé le sentiment d'énervement et de colère du pays qui décide de faire cette loi au sorti de la crise, avec la guerre, avec le Covid qu'on s'est tapé, qui décide de faire ça à ce moment-là. En changeant complètement le système de calcul des retraites, j'ai travaillé avec Alain Grisé sur le premier projet à l'époque du point universel, vous souvenez-vous, ça n'a rien à voir. On est quand même avec une réforme qui n'a absolument rien à voir avec le système de fonds, qui est rejetée par tout le monde, vraiment quasiment par tout le monde. Et là, le souci qu'on a, c'est qu'il y a la loi et la démocratie, mais il y a un moment donné, celle-ci ne peut pas rentrer en conflit avec une majorité de population qui, en plus, parfois, pardonnez-moi, mais avec les mots, se sentent de plus en plus irritables, de manière d'ailleurs consciente.
Vous dites que pour une formation politique qui n'a pas peur de la démocratie, ils auraient dû aller au vote et accepter éventuellement de perdre. Quoi,
la force
fait,
symbolique face à la force réelle. Et à ce titre-là, moi je trouve que la suite qu'il y a eu sur le 49-3, puis les refus, par exemple, des consultations populaires, puisque dans ma tête, moi, j'imaginais que c'était possible de faire un référendum d'initiative populaire, puisque c'est un appel direct à la population, et on nous avait fait rêver un petit peu sur le fait que c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place à la Suisse. Et en fait, là, on a l'impression qu'il y a eu un enchaînement de moyens de bloquer,
Mais reconnaissez qu'on vit quand même une drôle de période aujourd'hui où on reproche à une majorité certes relative, mais de faire voter avec tout ce que les outils démocratiques permettent, de faire voter son programme avec une opposition qui conteste, qui utilise elle aussi les outils du Parlement
dans le programme
pour
de Macron.
Contester. Bon, mais il y en a un qui à un moment utilise le
49-3.
Mais c'est le jeu politique. Et si jamais on n'est pas content et qu'on en a assez d'Emmanuel Macron, ben rendez-vous soit à des élections intermédiaires s'il dissout l'Assemblée nationale, soit en 2027.
On reconnaît aux opposants le droit de s'opposer.
Mais ils l'ont fait.
Ils sont mauvais perdants. Parce que quand ils perdent, il n'y a pas de dérive mafieuse. Je suis désolé, quand tu perds, tu dis pas des dérive mafieuse, tu dis ben on a perdu, Loïc. Et rendez-vous effectivement dans 4 ans. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon s'est déjà présenté 3 fois à l'élection présidentielle, il n'a pas été en mesure d'être...
Madame. Voilà. Donc, même pas au second tour. Hein.
Les Français n'ont pas non plus validé son
programme. Allez-y Loïc.
Il y a un autre souci, encore une fois, qui est vraiment... même les gens qui s'y connaissent, hein, pardon, excusez-moi, je ne suis pas Dieu le Père, mais ceux qui s'y connaissent sur la partie de la technique, enfin, j'entends pas assez sur vos plateaux télé... Bruno Le Maire l'a dit, au même niveau un peu que ce que vient de dire Aurore Berger, hein, on est pour la démocratie du vote, alors ils ne font pas de vote sur cette loi, enfin, on est complètement dans le déni de la réalité. Bruno Le Maire a sorti une seule fois, et il ne l'a pas fait deux fois, que la CVAE, qui va taxer uniquement le CAC 40, puisque c'est sur avant tout des entreprises extrêmement riches, va être supprimée en 2023 et 2024, et ça sera compensé par la réforme des retraites, c'est ce qu'on a envoyé au budget pour l'Union européenne. Personne ne parle, en fait, des arguments mensongers de tout le gouvernement puisque moi j'ai le projet de loi de finances issu de l'Élysée et de l'État, qui stipule concrètement, nous allons supprimer 8 milliards sur le CAC 40, sur un impôt de production sur la valeur ajoutée qui s'appelle la CVAE, et ça sera financé
cadeau aux actionnaires, comme d'hab. Hein,
excusez-moi, si vous voulez éviter l'opposition,
peut-être cadeau à l'outil de production,
vous faites pas mieux.
Oui, mais
donc bien leur responsabilité.
Heureusement, parce qu'on serait dans quelle merde.
Et l'opposition s'est excitée, l'opposition a contesté, l'opposition a utilisé ses armes. Mais à la fin, il y a une fin de partie qui est sifflée, démocratique, politique.
Et donc, on doit
se là, comment?
Bah oui, on peut toujours.
On se couche.
On doit des fois passer des lois impopulaires. Et oui, c'est bien
mais,
ça.
Mais quand ça ne te convient pas, on doit les mettre.
Excusez-moi, on va utiliser tout ce qui est en autre pouvoir, à la fois à l'Assemblée nationale et à la fois dans la rue si c'est nécessaire.
Oui. Il y a pour une journée de manifestation.
Ça fait partie du jeu démocratique depuis très longtemps.
Alors le jeu démocratique, je te pose la question.
Mettre que des gens en colère. À partir donc la semaine prochaine, il y a une nouvelle journée d'action et ensuite il y aura la proposition de Lyotte. Et après, qu'est-ce qui se passe alors?
Après, ça laissera un goût très amer. Et pas seulement chez les gens de LFI, ça laissera un goût très amer qui dégoûtera éternellement de la politique.
Oui.
Bah si, parce que
je veux dire, quand je t'écoute là-dessus et tout à fait calmement, ça me fait très peur. Je me dis, en fond, si tu incarnes cet esprit, tu dis nous à un moment, donc ça veut dire que tu t'associes idéologiquement à ce que représentait LFI.
Non.
Ça veut dire.
Non, j'ai dit opposition à la loi.
Ça veut dire quand même à un moment, si la sixième république que nous promet Mélenchon et les filles, c'est en fin de compte, quand on n'a pas raison, on pète tout et on n'est pas d'accord, c'est la dictature, mon ami.
Ce sont des dérives mafieuses.
C'est la dictature.
Et ça, c'est pas une insulte. Ça, c'est pas une exagération.
Tu viens de dire, le droit
d'aller dans la rue, c'est pas de la dictature.
Mais aller dans la rue pour foutre le bordel.
C'est pas ça. Ça veut dire que tout casser.
Les manifestants ont foutu le bordel.
Non, mais attends,
sauf Etienne, que là, on renverse les rôles. On dit, ces gens sont au pouvoir. À un moment, à l'Assemblée nationale, ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent. Sens 10 par rapport au 49.3, ce que tu me décris là. Alors, c'est la dictature.
Merci à Loïc d'avoir avec nous. On va aller dans les Alpes-Maritimes retrouver Brian qui est responsable de parc. Bonjour Brian.
Bonjour Brian.
Bonjour à tous.
Bienvenue.
Bonjour,
Brian. Alors est-ce que l'opposition passe à autre chose ou est-ce que la contestation doit continuer? Dites-nous.
Alors, je vais vous dire, et ça me fait mal de dire ça parce que la personne qui vous parle n'a pas voté Macron.
Oui.
Mais il faut passer à autre chose. J'aimerais juste refaire un tout petit peu d'histoire avant de continuer. Quand Macron a proposé avec Elisabeth Borne et son gouvernement, lorsqu'ils ont proposé la réforme des retraites, ils ont d'abord mis en place le 47.1 qui permettait d'avoir des débats très courts à la fois. Donc bon, premièrement, la NUPES. Alors la NUPES qui a une lourde responsabilité lors de ces débats parce que ils ont choisi de faire de l'obstruction parlementaire avec plus de 20 000 amendements, ce qui a retardé en fait et ce qui a empêché le vote notamment sur l'article 7.
D'ailleurs Laurent Berger a reproché à la NUPES d'avoir empêché ce vote sur l'article 7, je le rappelle.
C'est vrai.
Ouais, ah oui, voilà, mais c'est vrai, oui. Mais bon, après,
stratégiquement, c'est une erreur.
C'est pour mieux dire ensuite dérive mafieuse.
Ah oui, allez-y.
Sa part de responsabilité, puisqu'il a aussi supplié avec la NUPES et tout, pratiquement tous les autres partis politiques à voter pour Macron. Donc, tous ces gens, en fait, essayent de se racheter une conscience politique envers les Français, alors qu'ils ont tous contribué à voter pour Macron.
C'est leur mauvaise conscience qui parle?
Bien sûr, c'est leur mauvaise conscience. Et puis aussi, c'est parce qu'en fait, ces gens ont une rage contre le Rassemblement National. Le Rassemblement National augmente dans absolument tous les
sondages.
Les sondages, oui, merci.
Plus la NUPES fait le bazar, plus ils augmentent. Hein.
Oui, mais la NUPES fait le bazar pour faire oublier qu'ils ont fait de l'obstruction, qu'ils ont empêché le vote de l'article 7. Ils veulent faire oublier qu'ils ont voté pour Macron. Ils veulent faire oublier qu'ils ont refusé de voter pour la réforme.
Monsieur Macron a été élu.
Vous voyez qu'ils votent pour Le Pen?
Ah ben oui.
Mais c'est quoi ce cinéma? Vous croyez que des gens de gauche vont voter pour Le Pen? Non, mais c'est un rêve, ça.
C'est pas un rêve. Parce que des gens de gauche votent déjà.
Il y a déjà des gens de gauche qui votent pour Le Pen.
Mais non.
Laisse finir, Brian.
Ah bon?
Allez-y.
Quel est le problème, Madame Le Pen? La Macronie attaque sans cesse en longueur de journée le Rassemblement National et Madame Le Pen. La NUPES attaque toute la journée, à longueur de journée, le Rassemblement National et Madame Le Pen. Tout le monde attaque le Rassemblement National parce qu'ils ont peur du Rassemblement National, pas pour leur programme, pour cette derrière attention l'extrême droite. Non, parce qu'ils savent très bien qu'en réalité le Rassemblement National va régler tous les problèmes qu'aujourd'hui il y a en France. Ça ne mettra pas les problèmes tout le
temps. Vous êtes électeur à son national.
Je pense honnêtement que LFI est plus attaqué que le RN en ce moment.
Oui, LFI en prend bien plus la gueule que le RN, excusez-moi.
Je ne suis pas du tout proche de LFI, mais
LFI se fait insulter par le gouvernement tous les jours.
Bah, il le cherche aussi. Hein.
RN, c'est plutôt discret en ce moment quand même, Brian. Il ne passe pas grand-chose autour du RN.
Le RN, quoi qu'il fasse, de toute façon, il y a toujours un truc à dire. Toujours leur pote. Alors moi, je vais juste vous dire, la NUPES a refusé de voter la motion référendaire, alors que des députés de Lyot le souhaitaient, des députés LR le souhaitaient, les députés Rassemblement National allaient la voter. La NUPES, parce qu'ils ont boudé, parce qu'on n'avait pas choisi la leur, et ben du coup, on la vote pas. Et ben du coup, c'est ce qui permet encore aujourd'hui qu'on soit dans cette situation.
C'est pas grave, puisque quand Mme Le Pen sera au pouvoir, on remettra la retraite à 62 ans, elle s'y est engagée. Peut-être Brian, même à 60, comme le disait son programme.
La discussion,
même à 55. Hein.
La discussion est finie. Moyane, il est 10h20. Bah, l'opposition doit-elle accepter sa défaite, oui ou non?
Futur vote, ça a été...
On va regarder le résultat de la petite consultation qu'on a mis sur les réseaux sociaux. Voilà. On est toujours sur les deux tiers, un tiers. Non, ça
l'a... Pas ici, hein. Ici, c'est l'inverse. On est sur les 4/5.
Pas d'acceptation de la défaite, 63-37 pour ceux qui ont suivi la discussion et qui ont voté sur Twitter.